Bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de cette semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Clément Muller, Ricardo Baroni et Olivier Deniau. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du cyclisme avec les classiques du printemps, de l'athlétisme avec les mondiaux en salle et de la MotoGP avec un retour sur le Grand Prix d'Argentine de la semaine dernière. Et nous commenterons ensuite l'actualité sportive de la semaine avec notamment du football, du rugby. Et nous terminerons enfin par les coups de cœur de nos invités. Ricardo Baroni, on va commencer par le cyclisme. C'était le premier monument ce week-end sur le circuit World Tour. Et on s'attendait un peu à une victoire de Pogacar, parce que quand on voit Pogacar au départ d'une course, on s'attend à être à ce qu'il soit le premier à l'arrivée. Et Mathieu Van Der Poel a décidé de contrarier ses plans.
Oui, c'est une course très très longue, donc dans le final c'est à peu près toujours les mêmes qui s'y retrouvent, donc 300 et quelques kilomètres, 1100 MO, et dans le final Pogacar, comme il avait fait déjà plusieurs places dans les précédentes éditions, il a cherché à éliminer Van Der Poel. Et donc ça a fait un final de course assez exceptionnel et vraiment joli à voir.
Un final dans lequel il y avait également Filippo Ganna, ça faisait trois champions du monde de différentes disciplines sur cette arrivée.
Oui, tout à fait. Hein, chacun a été champion du monde dans sa discipline, donc c'est assez impressionnant de voir trois coureurs comme ça dans le final. Ce qui était assez aussi exceptionnel, c'est que ce sont trois coureurs qui ont fait une préparation différente. Ça veut dire que Van Der Poel a fait le Tirreno Adriatico caché dans le peloton et en préparation pour cette course qui était son principal objectif de l'année, en sachant que Pogacar a déjà gagné l'Estrade Bianche. Pogacar, lui, il est resté tranquille à la maison, il s'est entraîné pour être présent à cette course. Et Ganna a fait aussi Tirreno Adriatico, mais lui a joué le classement général en finissant deuxième.
Ok, donc on le voit, c'était le septième monument pour Van Der Poel, à égalité avec Pogacar. Ça commence à chiffrer quand même.
Oui, c'est ce que je disais au tout début, c'est que maintenant, ça reste une chasse gardée qu'entre certains coureurs. Pogacar, Van Der Poel, Remco Evenepoel, voilà le genre de coureurs qui prennent toutes les grandes classiques. On attend avec impatience de voir le Tour des Flandres et les prochaines compétitions.
Alors, Tour des Flandres, justement, c'est le prochain monument qui aura lieu le 6 avril. Ensuite, il y aura Paris-Roubaix.
C'est ça.
Donc voilà, on va attendre ça avec beaucoup d'impatience. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des coureurs français sur ce Milan-San Remo ?
Je voulais absolument parler d'un coureur qui m'a impressionné et que j'étais vraiment content de le voir là. C'est Romain Grégoire qui a essayé de suivre les trois coureurs qu'on vient de parler. Et c'est vrai qu'il les a tenus jusqu'à peu près à la moitié de l'avant-dernière montée qui est la Cipressa. Mais c'est beau de voir un Français qui essaye de suivre des champions comme Ganna, comme Van Der Poel et Pogacar. Ça nous promet un excellent futur pour ce coureur français.
Bon, et donc on l'a dit, il y a eu beaucoup, beaucoup d'attaques de Pogacar pour essayer de déstabiliser Van Der Poel. Qui ont toutes échoué. Est-ce qu'à votre sens, il y a eu des erreurs tactiques de la part de Pogacar à vouloir trop attaquer ?
Oui, je pense qu'il y a eu certaines erreurs. La première, on l'a vu tout de suite en arrivant dans la Cipressa, c'est qu'il était en 25e position, tandis que Van Der Poel était en 3e position. Donc, il a dû remonter tout le peloton Pogacar avec un équipier dans la roue. Et quand il a attaqué, il n'avait plus beaucoup d'équipiers à disposition. Il aurait été plus agréable et mieux pour lui de se retrouver en première position à l'entrée de la Cipressa. Une montée qu'ils ont montée quand même plus de 30 secondes, moins de 30 secondes que le dernier record, quoi. Donc, c'est monté très vite. Mais il a essayé de lâcher dans cette montée Van Der Poel et non, ça l'a pas fait. Van Der Poel à chaque fois suivi. Alors certaines personnes disent qu'il aurait fallu un équipier supplémentaire à Pogacar pour durcir la course. Mais bon, voilà, ça c'est pour moi une erreur principale, c'est d'attaquer la Cipressa en 25e position. À la vitesse où ça roule, même si on est en grand champion, on est obligé de faire un effort pour se porter à l'avant de la course.
Bon, ça montre quand même qu'il a besoin d'équipiers, parce que ces derniers temps, il avait plutôt montré qu'il pouvait presque tout faire tout seul.
Oui, c'est vrai. Quand c'est une compétition aussi dure que l'Estrade Bianche ou par exemple des étapes du Tour de France, il peut faire tout seul. Mais pour une course où il y a quand même beaucoup de plats, et que les difficultés sont dans les, on va dire, 20 derniers kilomètres, il faut des équipiers pour durcir la course dans l'avant-dernière montée, puisque dans le Poggio, Habituellement, ça se joue dans le Poggio, qui est la dernière montée. Et là, il a essayé de faire quelque chose d'exceptionnel et qu'on n'avait pas vu depuis de longues années. Ça veut dire d'attaquer dans la montée précédente pour essayer de faire une sélection.
Ok. Donc, est-ce que vous pensez que ce duel Van der Poel-Pogacar peut être un des duels prémices du futur Tour de France ?
Non, pas du tout, hein, parce que Pogacar, c'est une personne qui va viser le classement général. Il a déjà porté le maillot jaune Van der Poel, mais il n'est pas capable de faire des grands cols comme Pogacar, d'arriver devant dans des grands cols. Déjà le poids, hein, qui est tout à fait différent. Maintenant, Van der Poel est explosif, il est capable de faire un effort sur 2-3 minutes maximum, mais quand ça devient plus long, comme une montée de col, non, il sera pas là, Van der Poel. Ou on va avoir un défi, c'est dans le Tour des Flandres, ou si Pogacar participe aussi à Paris-Roubaix, puisqu'on ne sait pas encore s'il va y aller ou pas, ça va être intéressant, puisque les efforts sont de courte durée, donc ça peut nous permettre un Tour des Flandres assez exceptionnel.
Donc même si une équipe est construite autour de Van der Poel avec des coéquipiers, vous pensez qu'un grand tour aujourd'hui, c'est pas à sa portée ?
Non, pas du tout, hein. Je pense pas. Peut-être une course d'une semaine et encore, parce qu'une course comme Paris-Nice au Tirreno Adriatico, il n'est pas capable de jouer les premières places au classement général. Physiquement, c'est quelqu'un qui est tout à fait différent de Pogacar. Pogacar est capable de faire un excellent sprint, il est capable de rouler contre la montre et surtout, il grimpe, puisque la différence de poids, elle est énorme entre un Van der Poel et un Pogacar.
Ok, alors du coup, on a dit que le prochain monument, c'était le Tour des Flandres le 6 avril. Quel est le favori, du coup ? Est-ce que Van der Poel se positionne encore comme favori du fait de sa victoire ? Est-ce que Pogacar va vouloir absolument finir premier parce que deuxième, c'est pas dans ses habitudes ?
Ben, Pogacar, l'année dernière, c'est lui qui a gagné le Tour des Flandres et il a lâché Van der Poel dans une montée. Même si elle était courte, il l'a quand même lâché parce que c'est une course très difficile, plus difficile que Milan-San Remo. Il faut savoir que Milan-San Remo, au départ, tous les coureurs peuvent gagner. Donc c'est une course où la difficulté n'est pas énorme et tout le monde peut arriver jusqu'à l'arrivée. Ce qui n'est pas le cas d'un Tour des Flandres où c'est très très dur avec les pavés et si en plus il pleut. Est-ce que Van der Poel va vouloir prendre sa revanche de l'année dernière ? Ça, on ne le sait pas encore. Il n'y a qu'une chose qui est certaine, c'est que l'équipe structurée autour de Van der Poel, c'est plutôt une équipe pour les classiques, ce qui n'est pas du tout le cas de Pogacar, puisque le Pogacar, son objectif numéro un de l'année, c'est le Tour de France. Donc il a une équipe plutôt structurée sur des courses par étapes avec de grandes difficultés.
Ok, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt donc, dans les semaines qui arrivent, et notamment la première date, on l'a dit, on le répète, le 6 avril pour le Tour des Flandres. On va passer des routes au tartan de l'athlétisme, Olivier Dogneau, avec vous.
Oui.
C'est actuellement les championnats du monde dans salle à Nankin en Chine. Mmh. Et on a eu une bonne surprise pendant le week-end avec une belle médaille d'or de Marie-Julie Bonin, qui est championne du monde, du coup, au saut à la perche.
Oui, tout à fait, avec 4,75 m. Donc, voilà. C'est une excellente performance, puisque bon, Marie Bonin, il faut le savoir, elle était aux Jeux Olympiques déjà à Paris. Elle avait fait 4,60 lors des Jeux Olympiques. Elle a été médaille d'argent ou médaille de bronze au dernier championnat d'Europe avec un saut, je crois qu'elle avait réalisé 4,65. Et là, si tu veux, avec 4,75, elle bat le record de France. Enfin, elle égalise la performance du record de France. Elle réalise ça donc dans un grand championnat, championnat du monde. Et c'est une performance qui se rapproche vraiment du tout au niveau mondial, puisque bon, les Jeux Olympiques c'était 4,90. Hein, l'Australienne n'est pas là, la Néo-Zélandaise qui était deuxième non plus. Enfin, la Suissesse qui a été championne d'Europe était là. Elle l'a battue. Donc c'est vraiment une fille qui est en très grande progression. Elle a eu un peu chaud aux fesses, comme on dit, à 4,60, puisqu'elle a passé la barre de 4,60 m au troisième essai.
C'est ça.
Donc le saut à la perche, c'est vrai que c'est vraiment un sport de précision, mais bon, physique, technique, etc. Mais il y a quand même de la précision technique, et il faut savoir gérer son concours au niveau stratégique également. Et elle l'a parfaitement fait. Et c'est une fille qui répond toujours présent dans les grands championnats.
Donc c'est une athlète de 24 ans que le grand public découvre. Hein. Je pense qu'on n'est pas nombreux à connaître son nom rien qu'autour de cette table. Je pense qu'à part vous, personne ne la connaissait avant samedi. Mais...
En plus, le saut à la perche féminin, aujourd'hui, il n'y a pas une fille qui est leader comme c'est le cas chez les hommes avec Armand Duplantis. Hein. C'est sûr que quand on connaît le saut à la perche masculin, à l'époque, il y avait Sergueï Boubka, maintenant il y a Duplantis. Chez les filles, c'est quand même un peu plus ouvert. Donc, voilà, comme c'est une fille qui est en pleine progression, qui est jeune et qui a vraiment, je pense, un avenir devant elle, ben on va croiser les doigts et pour que les petits cochons ne la mangent pas, comme on dit.
Alors, il y a quelques étapes d'ici là, mais il y aura les championnats du monde à Tokyo en plein air cette fois-ci, du 13 au 21 septembre. Donc, est-ce qu'on peut espérer à ce qu'elle figure bien dans ce concours et qu'elle, pourquoi pas, soit sur le podium?
On peut l'espérer, puisque je te dis, elle vient de faire deux podiums au dernier championnat d'Europe et à ses championnats du monde. Elle progresse, elle a 24 ans et je pense qu'elle a la tête sur les épaules et c'est ce qu'elle fait et ça a l'air vraiment solide.
Bon, eh bien, on va suivre ça pour le camp français. Toujours dans le camp français, on a Willem Belossian qui a fini médaille d'argent sur le 60 mètres haies derrière Grant Holloway, le grand favori.
Oui, c'est le champion olympique du 110 mètres haies de Paris. Et bon, les temps sont pas si exceptionnels, mais enfin, bon, on peut pas se fier en fonction des pistes. On sait que c'est pas une question de vent, hein, puisque en salle, il y a pas de vent. Mais en tout cas, il fait deuxième. Il avait fait deuxième au dernier championnat d'Europe. Bon, c'est sûr que le Polonais qui était champion d'Europe n'était pas là, mais néanmoins, la performance qu'il fait, il faudrait que je fasse 7,51 en finale. Holloway, il est qu'à 7,42 ou 7,45. C'est pas si loin que ça, quoi. Donc, c'est un gars qui a déjà fait de nombreuses fois moins de 13 secondes, hein, l'Américain.
Sur 110 mètres,
oui. Sur 110 mètres, hein, je parle, ouais, bien sûr. Et donc, voilà, parce que entre le 60 et le 110 mètres, il y a toute une partie de course à travailler, hein. C'est pas du tout les mêmes filières au niveau physiologique, mais en tout cas, toute la mise en action et le départ jusqu'à la 5e haie, lui il est présent, et puis il y avait un autre Français là qui avait déclaré forfait, qui a refusé la sélection, c'est Matei qui avait fait 3e au championnat d'Europe, qui avait stoppé sa saison pour se préparer pour l'été. Donc voilà, quoi. Donc le 110 mètres français sera présent, en espérant que...
Avec toujours un Pascal Martineau-Lagarde.
Alors Pascal Martineau-Lagarde, à mon avis, ça devait être, je pense, ses derniers championnats. En effet, il s'est fait éliminer en demi-finale, mais il était présent. Il était présent donc à ces championnats. Et c'est la première fois, je crois, qu'il ne ramène pas de médaille à un grand championnat, Pascal Martineau-Lagarde.
Bon, sur les grands athlètes mondiaux, on vous parlait d'Armand Duplantis tout à l'heure, et il a été titré pour la troisième fois.
Pour la troisième fois consécutive.
Avec un saut à 6,15 m.
6,15 m. Il y a eu une belle bagarre avec le grec Karalis, ouais, voilà, qui a fait 6,05 m, qui a raté de peu 6,10 m. Armand Duplantis, lui, a franchi 6,10 m au premier essai, je crois. Puis après, bon, il n'a pas tenté de battre le record du monde dans ce championnat. Il s'est contenté de gagner le titre avec 6,15 m, ce qui est déjà une grosse performance. Du côté français, grosse déception, puisqu'on en a un qui a fait 0, c'est Baptiste Thierry, et puis le jeune Collet, il fait 5,50. Il reste scotché à 5,50, il doit faire 12e ou 13e du concours.
Alors, vous l'avez laissé entendre tout à l'heure, il n'y avait pas tous les grands athlètes mondiaux ne sont pas là sur ces mondiaux en salle, ce qui est un peu une habitude d'année en année, hein. On a plutôt... un écrémage, si je peux dire, qui fait que les athlètes préfèrent se concentrer sur la saison en plein air et laisser passer ces championnats du monde qui sont la même année pour le coup.
Oui, alors ce qui se passe, c'est que l'année post-Jeux Olympiques, en général, il y a des athlètes qui relâchent, qui prennent leur temps pour se préparer pour les championnats du monde. Parce que, bon, voilà, ça fait partie des plannings d'entraînement. Chacun se prépare comme il veut. Mais enfin, il y avait des Australiens qui étaient présents en salle, hein, puisque il y a quelques-uns qui ont eu des titres. Mais pourtant, les Australiens ont la saison pleine ici, estivale, hein, qui tourne. Mais bon, il y en a quand même qui se sont concentrés sur la salle. Il y a des athlètes français qui ont privilégié la salle également d'aller courir aux États-Unis. On en a parlé la dernière fois avec les coureurs de demi-fond, hein, qui ont fait l'impasse sur ces championnats du monde, mais au niveau mondial également. Mais bon, ben dans l'ensemble, c'était un championnat du monde, on va dire, d'un niveau correct, mais pas extraordinaire. Hein. Maintenant, des stars comme Duplantis, Ingebrigtsen aussi, voilà. Il était là, il fait deux titres, hein, sur 3000 et 1500, là, le Norvégien. Donc, il y a quelques champions olympiques qui étaient présents quand même.
Hein, assez tranquille, hein, sur ces deux courses.
Alors, assez tranquille, il y en a même qui disent qu'il n'a pas transpiré, mais c'est voilà, bon, enfin, reste, faut pas sous-estimer non plus l'adversité, mais c'est vrai que... Il y a quand même quelques athlètes internationaux qui ont fait l'impasse sur ces championnats du monde, mais en tout cas, un titre de championne du monde comme Marie-Julie Bonin, c'est un titre, hein, il faut les prendre, il faut être là le moment pour prendre ce titre, il va rester, hein, elle est championne du monde en salle.
Personne ne pourra lui enlever.
Personne ne lui enlèvera, tout à fait. Et puis en plus, elle a fait une belle performance en égalant le record de France.
Alors vous avez un peu répondu à la question, mais peut-être de manière plus précise, comment, quand on choisit et de faire la saison en salle jusqu'au bout, c'est-à-dire ces championnats du monde et d'enchaîner sur la saison en plein air, comment on se prépare?
En fait, on peut se débrouiller pour avoir deux pics de forme dans la saison, sachant que les championnats du monde seront un peu plus tardifs cette année. Il faudra repasser par les... Bon, je pense que les...
Au mois de septembre, voilà.
Ouais, ceux qui ont participé, là, ils seront... Je pense que... De toute façon, les performances en salle, comme la perche, sont validées. Les sauts en longueur, triple saut, le poids. Par contre, c'est sûr que sur 60 haies, ils vont être obligés de faire des minima sur le 110 mètres haies. Alors, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. C'est sur ces distances-là, le 60 mètres ou le 60 mètres haies, c'est un peu plus compliqué. Mais ça peut faire une bonne répétition. Et moi, personnellement, j'ai toujours incité les athlètes que j'entraînais à faire des saisons en salle parce que ça prépare, je dirais, la saison estivale du mieux. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux que la compétition quand même pour préparer la compétition.
Alors c'est même... ça évite de passer trop de temps à l'entraînement.
Ouais. Puis au niveau de la motivation,
connaître une perte de motivation.
Ouais, voilà. Ça permet de voir où on en est, ça peut faire des performances de référence, voir si on est sur la bonne voie. Et puis il y a des athlètes qui apprennent à gérer aussi les situations de compétition. Et rien ne remplace la compétition, selon moi.
Après,
je respecte ceux qui font de l'impasse, qui ont besoin de se préparer plus longuement pour repartir sur des cycles de travail foncier plus importants. Ça se fait en fonction des disciplines.
Exactement, ça dépend aussi des disciplines. Ouais. Ok, Olivier Deniau, merci pour toutes ces précisions sur l'athlétisme. On va basculer à la MotoGP maintenant avec vous, Clément Muller. On n'avait pas eu l'opportunité de faire le point la semaine dernière, lundi dernier, à l'occasion du Grand Prix d'Argentine. Il y a vraiment un homme fort en ce début de saison, c'est le numéro 93, Marc Marquez.
Et oui, même deux hommes forts, j'ai envie de dire.
Alors il y a un deuxième Marquez, un Marquez peut en cacher un autre.
Exactement, ouais, les week-ends s'enchaînent et se ressemblent.
Sachant qu'il n'y en a eu que deux.
Bon. Sachant qu'il n'y en a eu que deux, mais en tout cas, ce qu'on voit d'après les séances de qualification, les sprint races et les races, on est quand même sur un niveau au-dessus du lot pour l'instant. C'est aussi l'une des premières années où on a quand même les six pilotes Ducati qui ont les mêmes moteurs. C'est-à-dire que les pilotes d'usine ont décidé en 2025 de faire l'impasse sur les moteurs de 2025, donc ils se retrouvent avec le même moteur que l'année dernière. Or, les équipes satellites bénéficient aussi de ce moteur. Donc, on a les six pilotes avec le même moteur. Donc, ça remet un peu à égalité les pilotes Ducati. Et là, très clairement, on voit qu'à moteur et équipe égale, Marquez est bien au-dessus de Bagnaia, en tout cas en ce début de saison.
En termes de pilotage, donc on est presque en train de faire l'apologie, de se dire il faudrait que tout le monde ait la même moto et ça permettrait de déterminer vraiment quel est le meilleur pilote.
C'est un peu ce qui est en train de se dire. C'est de se dire, l'année dernière, on avait une 2023 et une 2024 avec des grosses différences. Là, cette année, on voit clairement que les pilotes qui ont les mêmes machines sont beaucoup plus proches que l'année dernière, où il y avait un gros gap entre la 2023 et la 2024. Donc là, effectivement, on est plus sur des questions de pilotage que sur des questions de technique moteur de l'année dernière.
Donc on l'a dit, Marc Marquez domine ce début de saison, mais il le domine pleinement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il prend la pole et à chaque fois, il gagne la course sprint. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sujet.
Ouais, c'est un peu un sans-faute pour l'instant. Il prend la poudre des scompettes. Déjà en 2 GP, il a une avance considérable sur les poursuivants. Quoi.
Voilà, il a 74 points, puisque vous en parlez au classement pilote. Devant son frère, donc Alex Marquez, avec 58 points, Bagnaia est déjà à 30 points, donc 31 points. Et ça descend très très vite après. À noter quand même, puisqu'on va en parler, la bonne cinquième place de Johann Zarco à ce classement au bout de deux Grands Prix.
Oui, c'est une belle surprise. On avait vu pendant les essais une Honda qui était compétitive sur un tour chrono, un tour lancé, donc ça présageait quand même d'amélioration et de quelque chose de bon. Johan arrive à transformer cette moto qui était performante sur un tour, il arrive à l'emmener au bout de 25 tours à un top 5, un top 10 régulièrement, donc ça présage du bon, contrairement à Yamaha qui a vraiment du mal encore cette année. Quoi.
C'est ça, on voit que Quartararo est encore assez loin dans les classements.
Oui, les pilotes Yamaha ont vraiment du mal. Hein. Globalement, on est sur des motos qui ont progressé sur un tour, mais sur une cadence de course, c'est compliqué.
Donc, on a parlé de Marc Marquez, mais il va quand même falloir parler aussi d'Alex Marquez, parce que finalement, il est un peu dans l'ombre de son frère. On n'en parle pas beaucoup, mais il est là, deux fois deuxième. Ouais. Il tient un peu la dragée haute à son frère, pour le coup.
Oui. Ben, je pense que ça motive. Hein. Je pense qu'ils ont, les mêmes moteurs. Donc, ils n'ont pas la même équipe, mais à ce niveau-là, on a a quand même des superbes équipes. Hein. L'équipe de Marc et l'équipe d'Alex sont... On est sur des équipes très très proches, donc ça va, après ça va jouer. Je pense que c'est une grosse question de mental maintenant, et comme ils sont dans des, une espèce de d'énergie positive,
d'euphorie,
ouais, ça peut aller que bien, contrairement à Bagnaia qui est un peu là dans la tourmente, et il va falloir le surveiller sur les prochains Grands Prix. Ça peut être compliqué.
Et bien c'est parfait, vous avez fait ma transition. J'allais vous dire que Bagnaia était un peu en retrait pour le moment. Effectivement, on le voit moins, que ce soit sur la course sprint, que ce soit sur la qualif pour la pole. On voit qu'il est vraiment en retrait et qu'il a plus de mal à. Alors, est-ce qu'il a du mal à appréhender la moto, ou est-ce que vraiment, pour l'instant, les deux ou trois autres sont au-dessus?
Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se jouent. Déjà, la première chose qui joue, c'est dans le box. On a deux pilotes numéro 1, hein. On n'a pas un pilote numéro 1, un pilote numéro 2.
C'est ce qu'a annoncé Ducati, effectivement.
Donc on a deux pilotes de forte tête, de très bons champions, et je pense que c'est un peu compliqué de trouver sa place, et quand on ne trouve pas sa place dans une écurie, voilà, on n'est pas au top. Alors après, tout est à prendre avec des pincettes. On est quand même sur le troisième du championnat après deux courses, mais on n'est pas... il lui manque le petit quelque chose qui permet de jouer avec Marc aux avant-postes.
Est-ce qu'il ne se sentirait pas un peu dévalorisé, puisqu'il était pilote numéro 1 finalement l'an dernier, et qu'il se retrouve un peu pilote 1 bis, ou... Je ne sais pas comment on doit dire.
Mais... Je ne parlerai pas à sa place, mais je pense que oui, il est en train de se rendre compte qu'en fin de compte, à moto égale, ce n'est pas le pilote numéro 1. Et je pense que le gros travail pour lui, ça va être de l'accepter et de rebondir. Et pas de chercher à démontrer que c'est lui le pilote numéro 1. Là, on a compris qu'en fait, il y avait Marc Marquez qui était le numéro 1 Ducati et le numéro 1 de tous les pilotes. Enfin, pour l'instant, j'ai du mal à imaginer un autre scénario, sauf blessure, sauf casse. Il faut qu'il s'accroche au fait qu'il a une bonne moto et une bonne équipe, et qu'il aille chercher des précieux points pour jouer le championnat à la fin de l'année.
Un peu comme l'avait fait le champion du monde actuel, en jouant placé presque toutes les courses et pas gagnant.
Voilà, je pense qu'il va falloir qu'il change un peu son fusil d'épaule et qu'il essaye d'arrêter de gagner, entre guillemets, et qu'il cherche à marquer des gros points jusqu'à la fin de l'année.
Ricardo Baroni, je sais que vous suivez la MotoGP, vous voulez dire un mot?
Oui, on a parlé de plein de grands pilotes. Il y a quand même un grand pilote qui était présent l'année dernière et qui n'est pas là cette année. Donc j'aurais souhaité demander à Clément pour quelles raisons et quand c'est qu'il pense qu'il va revenir, Jorge Martin.
Le champion du monde en titre.
Le champion du monde en titre qui n'a pas fait un seul Grand Prix depuis le début de la saison. Quoi.
Effectivement, alors il a eu une grosse blessure à peu près similaire à celle qu'a eu Marc Marquez dans le passé. Il a été déclaré apte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il aurait pu reprendre le guidon dès le prochain GP, chose qui est en train d'être laissée entendue, c'est qu'il ne va pas le faire, et il a eu de grosses discussions avec Marc Marquez qui en tant que bon sportif lui a dit écoute, moi en reprenant trop tôt j'ai gâché une saison complète plus la moitié d'une autre. Perd peut-être 3-4 Grands Prix, mais prend le temps de te soigner. Et je pense que Rory est quelqu'un de très intelligent, et c'est ce qu'il est en train de faire, c'est de ronger son frein et de prendre le temps de se reconstruire et de se soigner correctement avant de monter sur une moto une nouvelle fois.
Quelle est la blessure de Jorge Martin?
C'est des blessures au bras, donc c'est une moto, on tient le guidon avec, sans rentrer dans les détails, hein, on tient le guidon avec les deux bras. Ça, c'est des motos qui nécessitent une grosse force physique, musculaire, articulaire, et on ne peut pas arriver avec 80% du bras droit et 100% du bras gauche. Il faut revenir en pleine forme sur ces deux bras.
Et on sait quand c'est qu'il va revenir?
On ne sait pas officiellement, mais... On ne sait pas officiellement. Je pense d'ici 3 Grands Prix.
Une certitude, c'est qu'il ne sera pas au Grand Prix du Texas à Austin le week-end prochain.
Non, ça c'est sûr.
Voilà, donc on va voir si Bagnaia remonte un petit peu la pente ou si les frères Marquez continuent leur numéro. Mais si on va passer à l'actualité sportive des autres sports avec les brèves de cette semaine, et on va commencer par de la Formule 1. C'était ce week-end le deuxième Grand Prix de la saison en Chine, et c'est Oscar Piastri qui s'est imposé de bout en bout devant son coéquipier Lando Norris. Il y a toujours pas de consigne chez McLaren. Ricardo Baroni, petit commentaire là-dessus. Piastri qui avait déjà fait un gros premier Grand Prix qui n'avait pas été récompensé en Australie chez lui, mais là il a vraiment mené la course de bout en bout de main de maître.
Ce qu'on s'est rendu compte en Chine, c'est qu'il y a une grande différence entre le Grand Prix complet et le sprint, puisque le sprint c'est pas du tout le même classement. Là on a vu que les voitures McLaren étaient vraiment au-dessus du lot puisqu'ils font le doublé et que derrière ils sont loin d'être tout prêts et de leur titiller ce début de saison. Donc on va attendre la réaction des autres écuries. On avait espéré une réaction de Ferrari puisque Lewis Hamilton a été vraiment impressionnant dans le sprint puisqu'il finit avec plus de 6 secondes d'avance. Mais on a vu qu'un Grand Prix complet, c'était pas du tout la même chose. On a déjà vu au niveau des essais avant le Grand Prix que c'était pas du tout le même style de configuration. Donc on attend le prochain Grand Prix en espérant que McLaren soit pas de nouveau dominant sur toute l'année et que ça soit comme la moto où en début d'année on soit bloqué sur une marque ou sur un pilote. J'espère simplement que du style le Verstappen qui puisse venir concurrencer Piastri et que Lewis Hamilton et Leclerc de chez Ferrari nous montrent quand même un peu de spectacle.
Alors effectivement, hein, mais c'est presque la safety car qui a permis des écarts assez resserrés en Australie sur le premier Grand Prix, mais McLaren semblait avoir déjà pris le large s'il n'y avait pas eu plusieurs interventions de la safety car sur des accidents. Donc on va suivre avec intérêt la domination ou pas des McLaren. En tout cas, c'est un début de saison difficile pour Ferrari. Déjà 8e et 10e en Australie. Là, les deux voitures ont été disqualifiées sur ce Grand Prix alors qu'elles étaient dans les points. Une pour non-respect du poids à vide du véhicule après la course, hein, 799 kg pour 800 autorisés. Il faut faire un minimum 800 kg. Et puis la deuxième voiture, c'est le fond plat de Hamilton qui était à 8,6 mm au lieu de 9 mm réglementaire minimum.
C'est pas trop ça qui me déçoit. Ce qui me déçoit, c'est que ça soit des pilotes de la même équipe qui sont professionnels et qui se touchent au départ et que ça pénalise la suite du Grand Prix. Donc ça, c'est vraiment dommage et j'espère que Vasseur, donc le manager de l'équipe, mette ça au point. Parce que si déjà des pilotes ils commencent à s'accrocher entre eux, c'est mal parti, quoi. Donc on espère qu'ils viennent concurrencer McLaren, mais moi j'oublie pas les autres, hein. J'oublie pas non plus Verstappen. Et puis on a un Français qui a fait quand même cinquième, et qui est assez exceptionnel et qui a apporté des points à l'équipe américaine Haas. C'est le Français
Esteban Ocon.
Tout à fait. Donc ça fait plaisir puisqu'il a quitté l'équipe française, pas spécialement avec des bonnes relations.
Ouais, c'est un peu fait virer même, on peut le dire.
Tout à fait. Donc ça fait plaisir de le voir rebondir comme ça dans une autre écurie et que ça fait pas longtemps, hein. C'est que le deuxième Grand Prix dans cette écurie. Donc si on a un Français qui peut venir jouer dans les 5 premières places, ça fait toujours plaisir.
Alors oublions pas quand même qu'il se retrouve 5e au gré des deux disqualifications des deux Ferrari notamment.
Ouais, mais ça fait quand même une 7e place.
Ça fait des points et il faut les prendre, absolument. Plus de déception du côté de Pierre Gasly, qui a été longtemps 11e de ce Grand Prix, le premier en dehors des points, qui n'a jamais été en mesure de rentrer dans les points.
Qui s'est fait disqualifier lui aussi pour la même raison que Leclerc, hein, pour un problème de carburant. Ça aussi, c'est dommage. Hein. Maintenant, moi, j'espère voir l'écurie française venir devant et jouer les premières places puisqu'ils avaient fait une excellente fin de saison l'année dernière. Espérons qu'ils reviennent et que ça nous crée un peu de spectacle et qu'on n'aille pas le prochain Grand Prix de nouveau un doublé McLaren.
Alors en tout cas, je ne vois pas Alpine pour l'instant concurrencer McLaren, mais en tout cas, Alpine est pour l'instant la seule écurie du plateau à ne pas avoir marqué de points. Donc ça, c'est quand même le premier défi, il est peut-être là déjà.
C'est quel le proverbe ? Quand on a touché le fond, on ne peut que rebondir.
C'est vrai.
Donc espérons que ça se passe mieux le prochain Grand Prix.
Ok, donc on va envoyer votre proverbe du jour à Alpine. Ça va leur faire du bien, je pense. On n'oublie pas Mercedes, qui est quand même très bien placé aussi en ce début de saison. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais les pilotes Mercedes sont
c'est
là.
C'est vrai, il y a un nouveau pilote italien, hein, qui court dans l'équipe Mercedes. J'aurais préféré qu'il court dans une équipe italienne, mais
ça viendra peut-être.
Peut-être, oui, tout à fait, qui se comporte très bien. On a vu un excellent dépassement de Ocon sur ce pilote italien, où il a roulé carrément dans l'herbe pour pouvoir le dépasser. Donc ça nous a fait un peu de spectacle dans ce Grand Prix. Mais c'est vrai que les Mercedes sont là. Et puis eux aussi ont fait une excellente fin de saison l'année dernière. Donc je pense que c'est les deux premiers Grands Prix. Il y en a énormément de Grands Prix cette année. Donc espérons que ça, les données changent un peu dans le futur.
Exactement, vous avez raison. 24 Grands Prix sur le calendrier de la F1 cette année, jusqu'au 9 décembre. Donc effectivement, les pilotes et les écuries ont le temps de régler les voitures et de devenir plus performants. On va passer au rugby avec en point d'orgue de la 19e journée du top 14, un match phare entre le premier et le deuxième. Donc Toulouse qui se déplaçait à Bordeaux, et c'est l'UBB qui s'est imposé 32-24, Olivier Degnaud.
Bah oui, moi j'étais surpris, hein, je mettais Toulouse plutôt vainqueur, alors, parce qu'on est habitué à les voir gagner régulièrement.
C'est ça, alors la différence, sans jeter le discrédit ni sur Toulouse ni sur l'UBB, Toulouse n'avait pas fait jouer les internationaux, oui, c'était un choix, hein, après un tournoi destination qui avait été intense et dense, et je pense que la fête qui a suivi la victoire a dû l'être aussi, et donc on a souhaité préserver, je pense, les organismes.
Oui, parce que je crois savoir qu'ils n'ont pas fait une seule troisième mi-temps pendant tout le tournoi des destinations, et donc ils ont dû se réserver pour la dernière journée.
Ils ont cumulé plusieurs troisièmes mi-temps.
Peut-être qu'ils ont cumulé la troisième, la quatrième, la cinquième. Et voilà.
En tout cas, c'est l'UBB qui s'est imposé 32-24, ouais, avec des essais notamment de Damien Penaud et de Louis Bielbarré. Donc eux ont fait jouer leurs internationaux. Ouais. Il y avait quand même 29-0 à la pause pour l'UBB, et quand même le Stade Toulousain s'est bien repris en deuxième mi-temps pour échouer finalement pas si loin de Toulouse, de l'UBB,
oui,
pardon.
Tout à fait. Et moi je zappais un peu avec le foot.
Et bien justement, on va zapper nous aussi avec le football. Donc c'était ce matin les quarts de finale de la Ligue des Nations, match retour, puisque le match aller s'était joué jeudi matin pour nous la semaine dernière. Et l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales, non sans mal, en battant la Croatie 2-0 dans le temps réglementaire. Et il a fallu les tirs au but pour départager les deux équipes. On a vu une séance de tirs au but, alléchante. Avec un Mike Maignan que le Milan AC aurait aimé avoir en Ligue des Champions. Mais en tout cas, voilà, la France s'impose lors de cette séance de tirs au but et retrouvera l'Espagne en demi-finale au mois de juin. Un commentaire, monsieur Ricardo Baroni ?
Ben, on a quatre grandes équipes en demi-finale.
En demi-finale, effectivement.
Donc France-Espagne, je trouve que ça peut être très sympa. Et Portugal-Allemagne, c'est aussi très bien. Donc je pense qu'on va avoir de très beaux matchs dans le futur. L'Allemagne est passée ce matin avec un match nul contre l'Italie. Mais c'est une équipe de jeunes, et donc je pense que la préparation n'est pas pour gagner cette compétition, mais plutôt pour le futur. Il y a plein de nouveaux Allemands, et je trouve que c'est une équipe qui va en devenir. On a vu aussi l'équipe de France, hein, avec plein de jeunes qui sont présents et qui promet aussi un avenir intéressant. Concernant l'Espagne et le Portugal, j'ai pas regardé le match, mais bon, j'ai vu le score des Portugais, c'était quand même assez impressionnant. Donc si on peut avoir des buts dans le futur et que ça se joue pas 1-0 ou 1-1 et tir au but, ben ça peut être quand même très intéressant pour le football, quoi.
Alors là, pour le coup, pour les matchs de ce matin, il y a eu du spectacle, effectivement. Malgré deux séances de tir au but, il y a quand même eu du spectacle avant, hein, puisque l'Espagne se fait aussi 3-0 contre les Pays-Bas avant d'aller à la séance de tir au but. Donc il y avait eu 2-0 à l'aller.
Oui, mais il y a eu des buts. C'est ça qui est intéressant.
Là, pour le coup, il y a eu pléthore de buts sur l'ensemble des matchs de ce matin. On va revenir deux secondes sur l'équipe de France. On avait été déçus du match aller. On avait notamment pointé les errances de la charnière centrale en défense. Là, ce matin, on a vu que Upamecano était revenu. Et quand Upamecano revient, tout de suite, ça solidifie la défense. Olivier Degnaud.
Oui, c'est du solide. Hein. C'est un joueur qui
en impose.
Qui a du physique. Et puis il fait pas d'erreur. Enfin, pour moi, c'est rigoureux, c'est solide, c'est propre. Il marque son pénalty quand il faut, donc pas de problème. Par contre, devant, j'ai trouvé que c'était. Enfin, par contre, en plus devant, une entente entre Mbappé, Le petit Parisien
Doué.
Doué qui est arrivé. Ouais, ça tombe bien. Et puis avec Ousmane Dembélé, là, ça tombe très bien.
Voilà, donc qu'on n'avait pas vu au match aller. Hein, l'attaque avait été un peu balbutiante, mais là, elle semble.
Les Croates n'ont pas trop franchi le milieu de terrain.
À la deuxième mi-temps, les Croates ont passé la deuxième mi-temps dans leur camp. Oui, Ricardo Baroni.
Ce qui me surprend, c'est que Mbappé marque beaucoup de buts avec le Real de Madrid et que là, il est un petit peu en difficulté avec l'équipe nationale. Surtout que c'est habituellement un joueur qui marque un but à chaque match. Donc là, il se passe quelque chose que j'espère que ça va changer dans le futur. Il est revenu, hein, puisque ça faisait un petit moment qu'il ne jouait pas avec l'équipe nationale. J'espère que la complicité qu'il peut avoir avec un Dembélé qui a quand même été impressionnant avec le PSG et qui a qualifié, on va dire, le PSG en égalisant au match retour et qui a donné la possibilité d'en arriver jusqu'au pénalty. Donc j'espère qu'il va y avoir une complicité qui va se créer et qu'on va avoir de beaux matchs et des buts.
Mais c'est l'impression que ça donne, parce qu'en plus Mbappé s'est créé des occasions qui ne sont pas passées très loin. Ok, c'était à côté, mais ils sont là.
Bon, alors après, le style de jeu de l'équipe de France n'est quand même pas tout à fait le même que celui du Real Madrid pour le coup, et je pense qu'il peine encore à trouver sa place dans ce système d'attaque en tous les cas.
Je trouve que ça n'a pas été si mal, moi, de la part de Mbappé. Maintenant, en effet, il ne la met pas au fond pour l'instant.
Mais... ça a été en tout cas beaucoup mieux que jeudi, où effectivement, en Croatie, ça avait été assez catastrophique. Vous l'avez dit, Ricardo Baroni, donc l'Espagne s'est qualifiée aussi, et donc on aura un France-Espagne en demi-finale, et l'autre demi-finale, le Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo, voilà, toujours là, à plus de 40 ans.
Qui a marqué un but encore.
Qui a encore marqué, je crois que c'est son 136e but en équipe nationale ce matin, contre le Danemark, donc, qui jouera donc l'Allemagne, une jeune équipe d'Allemagne qui s'est imposée, donc, qui a fait match nul ce matin contre l'Italie 3 partout, mais qui s'était imposée en Italie la semaine dernière 2-1. Un petit point sur la squadra.
L'Allemagne, c'est plus que mérité, hein, cette victoire, puisqu'ils ont fait un très beau match au match aller. Là, je dirais que l'Italie, c'est pas tout à fait le résultat qui correspond, puisqu'ils ont fait 3-3, parce qu'à un moment donné, les Allemands gagnaient 3-0. Donc, ils ont levé le pied un petit peu, les Allemands, ce qui a permis à l'Italie de revenir dans le jeu. Bon, après, il y a quand même une anecdote à dire, c'est que les Allemands marquent un but, je crois que c'est le 2-0, où il n'y a personne dans les buts de l'Italie parce qu'ils sont en train de se chamailler entre eux pour une erreur qui avait un corner. Donc les Allemands ont joué rapidement le corner, ils ont marqué. L'entraîneur Spalletti, hein, qui était l'entraîneur de Naples, qui est devenu championne d'Italie. Et si on parle des fois de Liverpool contre le PSG, il y avait eu des super matchs entre Naples et Liverpool, disait que c'était préférable que ça arrive dans ce genre de compétition que pour la qualification à la Coupe du Monde. En sachant que l'Italie a déjà raté deux Coupes du Monde, on va éviter le proverbe. Jamais 203.
Donc c'est la journée des proverbes aujourd'hui pour Ricardo Baroni. Messieurs, il est déjà 17h42. On va passer à vos coups de cœur avant de terminer cette émission. Ricardo Baroni, on va commencer par vous.
Mon coup de cœur, c'est le match qui est en train de se jouer actuellement entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. J'espère que ça se passe bien et je trouve ça très bien parce que j'ai pu voir dans le journal L'Équipe une page complète de présentation de l'équipe de Nouvelle-Calédonie. Donc ça fait plaisir à voir.
Eh bien, on va suivre ça et on ne va pas dévoiler pour ceux qui voudraient savoir le score. On va se taire pour l'instant. Olivier Degnaud, votre coup de cœur de cette semaine?
Bon, j'aurais été aussi sur le foot avec l'équipe, mais du coup, je vais aller sur l'athlé. Je vais rester sur l'athlé avec Renaud Lavillenie, qui était limite qualifié au championnat du monde, mais en fait, pour des raisons d'âge, entre guillemets, il n'a pas été sélectionné au profit de Baptiste Thierry, qui malheureusement pour lui a fait zéro lors du concours de perche. Voilà.
Alors pour le coup, c'est même pas entre guillemets, hein, c'est vraiment la raison, la raison qui a été invoquée, c'est celle de l'âge. Hein.
C'est l'âge, et ils estimaient que Baptiste Thierry avait plus d'avenir et la compétition l'aurait plus été bénéfique davantage pour lui que pour Renaud Lavillenie. Mais je pense que vu le palmarès de Renaud et ce qu'il aurait apporté à ce championnat, je pense qu'il n'aurait pas fait zéro. Quoi.
Bon, et ce qu'il a apporté à l'athlétisme français, c'est un petit manque de reconnaissance quand même.
Mais bon, voilà, c'est mon petit coup de cœur et coup de gueule en même temps.
Clément Muller, on va terminer par votre coup de cœur.
Je vais aller vite, je vais en citer trois sans citer ce qu'ils ont fait. Ouais. Il y a Paul Roy en cyclisme qui est en métropole, qui a décroché enfin un podium, le petit jeune de l'ACD. Ensuite il y a les Calédoniens qui sont en Australie pour l'Asia Pacific Champions League en voile qui termine deuxième, et qui décroche aussi une qualification, et Julien Chable qui est un trailer calédonien émérite qui était présent sur la Barclay, le trail le plus dur du monde, qui était au départ.
Où il n'y a eu zéro finisher.
Il y a eu zéro finisher cette année, c'était l'édition la plus difficile et on avait un calédonien sur cette édition.
Voilà. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été présents avec moi sur cette émission pour commenter l'actualité sportive, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.
Le tout info avec Mivi.